Du mouvement social.
Bonsoir et bienvenue à l'émission mensuelle d'attaque sur Radio Halling, émission qu'on intitule « Du mouvement social » et qui vise à questionner chaque mois un thème d'actualité, un thème sur les questions sociales, les questions écologistes, les questions féministes, bref, toutes les questions qui agitent nos mouvements sociaux contemporains et bien sûr notre association Attac. Alors, pourquoi on a fait cette émission ? C'est d'abord parce qu'effectivement, en ces temps qui sont souvent sombres, on n'a plus que jamais besoin d'inventer des façons de faire dérailler le système. Ces façons sont variées, mais elles sont avant tout collectives et nous mettent en mouvement. Cette énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux contemporains, qu'on retrouve dans les manifs, dans les milliers d'initiatives qui cherchent à mettre un gros grain de sable dans le système, on essaye d'en faire quelque chose à la radio et en podcast. Et on en profite pour faire un clin d'œil à la fanfare invisible qui anime les manifestations parisiennes et contribue à nous mettre en mouvement. Cette émission mensuelle, qui est aussi un podcast disponible sur la plateforme spectre.org, on souhaite la faire à l'image de notre association, ATTAC, un mélange de tant de cerveaux disponibles et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue, mêler les réflexions de fond et l'actualité des mobilisations collectives, donner la parole. Si vous souhaitez apprendre avec nous à nous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, on remercie Radio Aligre pour nous accueillir. Alors aujourd'hui, on a intitulé notre émission « Précaires et chômeurs, la chasse aux plus pauvres est-elle ouverte ?» Et pour discuter de ce thème majeur, on a plusieurs invités. Élie Lambert, qui est secrétaire national de l'Union syndicale solidaire, qui est en particulier en charge des questions de travail, de chômage, de précarité, de protection sociale, autrement dit d'énormes dossiers pour un syndicaliste. Et puis donc au téléphone, Jean-Marie Pilon, qui est maître de conférence en sociologie à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, qui est spécialiste du travail et de la gestion de l'emploi. Cette émission sera aussi animée donc, par Françoise Clément et Evelyne Dourifer, qui sont militantes à ATTAC et qui sont en particulier spécialistes, elles aussi, des questions de travail, de réforme des retraites, de réforme du chômage. Et donc, c'est de tout ça qu'on va discuter ce soir.
L'émission d'ATTAC.
Élie, bonsoir. Quelles ont été les grandes réformes de l'assurance chômage depuis 2017 et quelles ont été leurs grandes orientations ?
Alors oui, bonsoir, merci de votre invitation. Alors cette question, en fait, elle est majeure parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a donc toujours une... En fait, en gros, par année, on a eu quasiment une réforme. Depuis 2017, et Emmanuel Macron, on peut dire, a été particulièrement volontariste sur ces dernières années. Alors il y a, mis à part peut-être les deux dernières, où du fait de son défaut de majorité parlementaire notamment, la machine a un petit peu, on va dire, déraillé, mais bon, ça remet pas en cause malheureusement les orientations. Alors les orientations, hein, ça a été, c'est au travers de plusieurs actes. Hein, on a des conventions chômage, c'est-à-dire des négociations au sein de l'UNEDIC, qui est l'organisme de gestion de l'assurance chômage. On a eu des lois et on a eu également des actes réglementaires type décret. Et ça va de toute façon toujours dans le même sens, à savoir la diminution hein, du montant des allocations, la diminution de la durée de versement et la restriction de l'accès à l'assurance chômage. Et le contrôle, toujours plus de contrôle. Moins de chômeurs indemnisés, moins longtemps. Aujourd'hui, à peine 40% des chômeurs sont actuellement indemnisés. Alors on va dire qu'il y a quelques dates qui sont quand même assez marquantes. Hein. On a eu, rappelons-nous, sous Muriel Pénicaud en 2018, à la fois elle nous avait parlé de plus de précarité au lieu de plus de sécurité, avec cette loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. C'était en 2018 et immédiatement il y a eu déjà un décret qui a été mis en place, un décret de contrôle-sanction, celui du 28 décembre 2018, contre lequel d'ailleurs nous nous sommes déjà battus. Alors en gros, hein, si vous voulez, en 2019 on a eu la fin de la part salariale des cotisations, hein, reste la part patronale, remplacée donc par la contribution sociale généralisée. On a eu véritablement là une étatisation quasi totale de l'assurance chômage, hein, avec des lettres de cadrage dont on, assez célèbres, qui rendent impossibles les accords entre partenaires sociaux, et donc avec le gouvernement qui peut reprendre la main. Des restrictions d'accès, je l'ai dit, hein, aux indemnités en 2021, notamment une refonte du salaire journalier de référence, qui intègre les jours non travaillés et qui attaque donc les travailleurs précaires. Et on a eu une augmentation, je l'ai cité aussi, de la durée de cotisation sur la période de référence qui était plus courte. C'est-à-dire qu'il fallait, pour justifier, pour pouvoir prétendre donc à l'indemnisation, donc avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois et non plus 4 mois sur les 28 derniers, tel que c'était le cas jusqu'avant. Donc on a eu des indemnités plus faibles, hein, plus courtes, avec ce principe dit de contracyclicité. Là, ça a été un décret en 2022, selon quoi moins de chômage veut dire moins d'indemnités. Le sens, c'est les chômeurs sont responsables de leur situation, ce qui permet de ne pas avoir à s'occuper des privés d'emploi. Ils n'ont, comme le disait Macron, qu'à traverser la rue. Donc, avec la loi du plein emploi, on franchit donc en 2023, on franchit encore une nouvelle étape. Hein. Il s'agit de faire travailler des allocataires donc du RSA aux conditions de travail et de salaire donc des travailleuses, on pourrait le dire, dans les pays type Chine ou Bangladesh, sans avoir à déplacer son outil de production. Voilà un rêve patronal qui ne s'est pas refusé, avec un décret sanction qui vient d'arriver, hein, donc qui a été donc publié. En mai de cette année, et en gros, qui permet d'amputer jusqu'à la totalité des allocations, malgré des chômeurs et des chômeuses, et y compris donc RSA, puisque c'est pas quelque chose qui est limité d'ailleurs donc aux allocataires RSA, et ce d'ailleurs malgré l'avis contraire des organisations syndicales et notamment, évidemment, du Comité national de lutte contre l'exclusion. Donc depuis, hein, je l'ai dit, il y a eu donc une série de textes qui ont été portés devant le Parlement, mais qui ont été retirés, comme la réforme Attal de 2024 due à la dissolution. Et puis cette fin d'année où le gouvernement nous avait parlé donc en 2025 d'une nouvelle réforme, mais qui, du fait du PLFSS, donc de la mise en place de la conférence sociale, a été donc avortée.
Jean-Marie, bonsoir.
Bonsoir.
À ton avis, ces réformes traduisent-elles un changement de la perception des chômeurs et des précaires par le gouvernement qui va au-delà du simple but de réaliser des économies budgétaires?
Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Ce qui est assez intéressant avec la séquence qu'on est en train de vivre, c'est que finalement, il n'y a pas de changement idéologique sur le fond. C'est-à-dire que finalement, les idées qui sont portées par le gouvernement depuis 2018 sont relativement communes à ce qu'on a pu connaître précédemment, que ce soit sous Sarkozy ou sous Chirac. Et même quand on regarde les documents qu'on peut trouver dans les échanges entre administrations, on se rend compte que dès les années 60, pour ce qui est des gens du ministère des Finances, et puis dès les années 70 et 80 dans les autres ministères, en fait, c'est une façon de concevoir le chômage qui est déjà très ancienne et qu'on peut même faire remonter jusqu'au 19e. Hein. C'est l'idée selon laquelle, comme Elie Lambert le disait très bien, selon laquelle les chômeurs sont en fait finalement responsables de leur situation. Donc il n'y a pas de changement majeur d'un point de vue idéologique. Hein. C'est toujours la même idée selon laquelle les chômeurs sont responsables de leur sort. En revanche, il va y avoir un changement du point de vue de la pratique. C'est-à-dire que jusqu'en 2018, du côté de l'assurance chômage, eh bien, les différentes conventions d'assurance chômage étaient décidées, étaient discutées, étaient, on pourrait dire, négociées entre partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des salariés versus les représentants du patronat, qui s'entendaient sur un texte. Alors, suivant les périodes et suivant le rapport de force, le texte pouvait aller dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, ce texte prenait en compte à la fois le côté salarial du travail, et puis d'autre part, il prenait en compte quelque chose qui a été très largement oublié ces dernières années, c'est le travail d'indemnisation, le travail des personnels de l'assurance chômage qui doivent calculer tout simplement les allocations des ayants droit et des personnes qui ont cotisé. Et donc, ce qui a changé du point de vue de l'assurance chômage, hein, Elie Lambert le mentionnait, c'est le fait que depuis 2018, le gouvernement s'est ingénié à travers différents tours de passe-passe à finalement être en mesure de régir par décret les questions d'assurance chômage. Ce qu'il fait, ce qui explique que finalement il y a eu une réforme tous les ans depuis 2018, en tout cas un souhait de réforme par an depuis 2018, c'est le fait que le gouvernement a pu rédiger tout seul dans son coin eh bien, de nouvelles réformes de l'assurance chômage et des réformes qui là ont eu une, on pourrait dire, une, ont connu des transformations d'ordre idéologique puisque le chômage qui, l'assurance chômage qui a été pensée historiquement comme eh bien, une aide aux personnes qui sont privées d'emploi de manière conjoncturelle, un soutien dans leur recherche d'emploi, eh bien, cette assurance chômage s'est muée, a été transformée pour devenir un levier de retour à l'emploi, une forme de carotte. On utilise l'assurance chômage comme carotte pour que les personnes retournent à l'emploi plus rapidement. Donc là, c'est la première transformation dans la pratique. Et puis, deuxième transformation très importante qui a été mentionnée par Elie Lambert, c'est la question du contrôle. C'est-à-dire que depuis les années 2000, pour le dire très rapidement, les gouvernants rêvent de voir le service public de l'emploi se muer non plus en carotte, mais en bâton. Et ça a toujours été stoppé, ou en tout cas, ça a été assez largement amoindri. On pourrait dire ça a été tempéré par les agents du service public de l'emploi qui considèrent que ça ne fait pas partie de leur métier que de mettre la pression sur les chômeurs. Et le développement du contrôle des chômeurs depuis maintenant une dizaine d'années a permis de compenser cette opposition des conseillers du service public de l'emploi.
Bonsoir Jean-Marie. Est-ce que...
Bonsoir.
Bonsoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution des missions de France Travail par rapport à celle de Pôle emploi? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé?
Alors là aussi, c'est intéressant parce que finalement, quand on regarde quelles sont les grandes missions de France Travail, on peut avoir le sentiment que se rejoue ce qui était le souhait du président Sarkozy lorsqu'il a créé Pôle emploi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer un grand monopole. Alors ça peut être surprenant hein, de souhaiter un monopole quand on est libéral, mais l'idée, c'est finalement de pouvoir avoir un instrument pour l'État, un instrument de remise au travail de la plupart des personnes qui sont privées d'emploi. Simplement, Pôle emploi avait laissé hors de son champ la plupart des personnes qui sont inscrites dans les missions locales, les personnes qui sont en situation de handicap et suivies par Cap emploi, et puis l'essentiel des personnes qui sont suivies par les conseils départementaux et qui vont bénéficier du RSA. Alors il y a un certain nombre de personnes qui, tout en étant bénéficiaires du RSA, étaient inscrites à Pôle emploi. Pour autant, le suivi était assuré, ainsi que leur contrôle, bien sûr, par les départements. Ce qu'il va y avoir de nouveau avec France Travail, eh bien finalement, ça va être l'exposition. Je crois qu'on pourrait le dire comme ça. L'idée de France Travail, c'est d'exposer au marché du travail l'essentiel des personnes qui sont privées d'emploi, quelles que soient leurs caractéristiques, qu'elles soient jeunes, en situation de handicap ou particulièrement éloignées de l'emploi, comme le sont les bénéficiaires du RSA. Donc l'idée, me semble-t-il, c'est qu'il y ait finalement eu, à travers France Travail, une gare de triage qui expose au marché du travail et à, on pourrait dire, la concurrence, toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Et puis ensuite, France Travail va faire le tri en fonction des difficultés des uns et des autres et les renvoyer vers les missions locales, les Cap emploi, les départements, une fois que finalement le marché du travail aura fait jouer ses lois. Et donc finalement, on pourrait dire que ce qui se joue avec France Travail, c'est finalement l'approfondissement du mouvement qui avait été lancé en 2008-2009 avec la création de Pôle emploi, qui consiste à finalement faire du marché du travail la première des instances de pour subvenir à ses besoins quand on est en difficulté. C'est d'abord le marché du travail, quel qu'en soit le prix, hein, et ça peut être un prix pour la santé, ça peut être un prix pour la précarité, ça peut être un prix pour la vie de famille. Tout le monde doit être exposé au marché du travail. Et puis ensuite, si des personnes vraiment ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins, alors là, on leur cherchera peut-être, si il reste du temps pour les conseiller, on leur cherchera d'autres solutions auprès d'autres types d'institutions. Néanmoins, dernier point, il me semble, vis-à-vis de cette question, qu'est-ce qui change entre Pôle emploi et France Travail? J'ai envie de dire que Pôle emploi n'est pas un monolithe. Pôle emploi n'a pas toujours été le même entre 2009 et 2024. Et finalement, une des plus grandes évolutions qu'a pu connaître Pôle emploi sur sa période d'existence, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, la question du contrôle. Le contrôle qui est né très discrètement en 2015 et qui a connu une évolution exponentielle entre 2018 et 2023, puisque le nombre de contrôles a été multiplié par 3 ou 4 pour atteindre le nombre de 600 000 l'an passé. Et c'est sans doute ça, finalement, c'est sans doute en cela que France Travail constitue la prolongation, le prolongement de Pôle emploi. C'est dans, finalement, cette existence finale de Pôle emploi où le contrôle est une pratique généralisée.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonsoir Élie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se partagent les rôles entre France Travail et les entreprises privées qui sont sous-traitantes de France Travail?
Oui, donc effectivement, c'est une des pratiques en fait les moins connues du grand public, hein, cette affaire-là. Hein. Et d'ailleurs, ça reprend en grande partie ce que vient de dire Jean-Marie, hein, c'est qu'en fait le travail étant considéré donc dans la vision libérale et notamment macroniste évidemment donc comme un marché, donc la recherche d'emploi doit être possiblement une source de profit. Et que le service public de l'emploi doit pouvoir favoriser. Et donc c'est cette mécanique qui est mise en œuvre. Hein. C'est finalement un petit peu la même chose que l'on voit pour entre guillemets le marché de la santé. Ça a d'ailleurs été également cité par Jean-Marie. Donc à savoir que les opérateurs hein, vont pouvoir, donc les opérateurs privés, hein, qui sont des sociétés, ça peut être d'intérim, enfin en tout cas de placement donc, de demandeurs, donc vont pouvoir donc placer les demandeurs d'emploi considérés comme les plus rentables. Alors qu'est-ce que ça veut dire rentable? Ça veut dire ceux pour qui, entre guillemets, le moins d'opérations de recherche doivent être, donc pour les rapprocher de l'emploi, doivent être effectuées, donc qui veut dire moins de coûts, on va dire, pour leur permettre de retrouver de l'emploi. C'est notamment, il y a eu une opération donc en 2024, Agile Cadre, qui s'appelait ainsi, hein, et qui était la sous-traitance de l'accompagnement de 165 000 cadres dans leur recherche d'emploi pour un contrat quand même de 61 millions d'euros, parce que c'est quand même assez juteux cette affaire-là. Bon, ça n'a pas été, comme d'ailleurs, c'est pas d'une grande efficacité, hein, mais c'est véritablement le but. Hein, et donc, quel est le rôle de France Travail hein, dans ce cadre? Eh bien, ça a été dit, hein, c'est que France Travail se coltine en gros les demandeurs les plus éloignés, entre guillemets les moins plaçables, si on peut le dire ainsi. Donc, France Travail, n'oublions pas en plus, est en train d'accueillir près de 2 millions d'allocataires donc, du RSA qui sont obligés de s'inscrire auprès de ces services. Donc, n'a absolument pas donc, les moyens, en plus de ça, c'est un moyen constant, donc ne peut véritablement déployer ses missions de service public. Et de plus en plus, on assiste véritablement à une accélération de l'externalisation de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. France Travail étant désormais un organisme, ça a été dit également, donc de tri social. Et d'ailleurs, ce tri peut parfaitement passer aussi par les dispositifs d'intelligence artificielle, histoire encore de maximiser les profits.
L'émission d'attaque.
Vous êtes bien donc dans Du Mouvement Social, l'émission d'attaque, et pour une émission intitulée « Précaires et chômeurs, la chasse aux plus pauvres est ouverte » avec Élie Lambert, secrétaire national de Solidaire, Jean-Marie Pilon, maître de conférence en sociologie, Françoise Clément et Evelyne Dorifer, spécialiste des questions de travail et de retraite pour Attaque.
Oui, alors Jean-Marie, je voulais te demander, pour toi, quelle est l'extension récente du domaine de contrôle des chômeurs? Pourquoi? Et est-ce que le contrôle renforcé des chômeurs peut avoir un impact sur le niveau de pénurie sectorielle de main-d'œuvre, dont on parle beaucoup?
Alors effectivement, le contrôle a évolué assez rapidement ces dernières années, au moins dans ses modalités d'organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour essayer de résumer très rapidement, finalement, on est passé à un contrôle de pièces, un contrôle des pièces que peuvent fournir, des justificatifs que peut fournir le demandeur d'emploi, à un contrôle de son comportement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le contrôle en régime néolibéral renoue finalement avec le contrôle qu'on a pu connaître en régime libéral au début du siècle, puisque ce qu'on a pu constater avec mes collègues Claire Vives et Lucie Alessantos, avec qui on a mené une enquête sur le contrôle sur longue période, c'est que, eh bien, finalement, ce dont on essayait de s'assurer au début du siècle, c'était d'avoir des gens qui étaient moralement solides, des gens qui ne boivent pas, des gens qui ne sont pas révolutionnaires. Et finalement, on retrouve des choses comparables, alors pas sur les mêmes points, mais c'est à nouveau le comportement que l'on constate et que l'on contrôle, puisque le contrôle dans les années 90 et 2000, il portait surtout sur des justificatifs, c'est-à-dire montrez-nous que vous avez fait des recherches d'emploi. Et c'est un peu ainsi que le contrôle s'est organisé à Pôle emploi dans les premiers temps, c'est-à-dire finalement on a organisé tout un ensemble de points de contact, alors à distance, mais de points de contact par mail ou par téléphone avec les demandeurs d'emploi pour tâcher de s'assurer que les personnes avaient un comportement actif, un comportement répété de recherche d'emploi. Donc on leur demandait des justificatifs, que ce soit via des mails, via des captures d'écran ou autres courriers qui leur permettaient de montrer qu'ils avaient un comportement de recherche d'emploi actif et répété, pour reprendre les termes de la jurisprudence. Toutefois, ce que l'on a pu constater quand on a fait notre travail d'enquête auprès des contrôleuses et des contrôleurs, c'est que, au-delà de ces questions de pièces, on s'interroge sur le fait que, on se demande si c'est pas de plus en plus le comportement des demandeurs d'emploi qui n'est pas évalué, c'est-à-dire, d'une certaine manière, leur dynamisme. Et on a le sentiment que finalement il y a un certain nombre de comportements ou plutôt de non-comportements, c'est-à-dire le fait de ne pas mettre à jour son espace personnel, par exemple, le fait d'être absent à un certain nombre de formations ou d'ateliers, le fait de se comporter de manière un peu impolie avec son conseiller. Toutes ces choses-là font partie des signaux faibles qui sont réunis pour déclencher un contrôle. Et donc, on s'interroge finalement sur les transformations de ce contrôle et la signification que ça peut avoir. Est-ce que finalement le contrôle, parce que on a pu le souligner à travers un certain nombre de statistiques, le contrôle débouche assez rarement sur des sanctions. On se demande si le contrôle n'est pas plutôt un outil pour discipliner les demandeurs d'emploi, pour faire en sorte que les demandeurs d'emploi conservent un comportement actif. Et puis les dernières extensions qu'il peut avoir en matière de contrôle, c'est, on l'a déjà évoqué, le fait que aujourd'hui les personnes qui sont suivies par les missions locales, les personnes qui sont suivies, donc les jeunes, les personnes en situation de handicap qui sont suivies par Cap Emploi, les personnes bénéficiaires du RSA qui sont suivies par les conseils départementaux, vont être exposées à ces formes-là de contrôle, alors même qu'on a pu voir dans les statistiques que les personnes les plus éloignées de l'emploi sont celles qui sont les plus souvent sanctionnées. Donc là aussi, on a une certaine crainte de voir le nombre de sanctions augmenter avec l'extension du contrôle à ces publics beaucoup plus fragiles. Les personnes plus insérées, j'ai envie de dire, sur le marché du travail, sont moins souvent sanctionnées, au contraire des personnes plus en difficulté. Alors, est-ce que ça peut avoir des effets sur les pénuries de main-d'œuvre? J'ai envie de dire que l'effet n'est sans doute pas celui qu'on pouvait escompter. Ce que l'on observe à propos des difficultés de recrutement des employeurs, c'est qu'ils finissent toujours par satisfaire, ils finissent toujours par trouver quelqu'un pour occuper les postes qu'ils proposent. Simplement, la question qui se pose, c'est combien de temps et quelles difficultés ils peuvent avoir pour satisfaire ces offres d'emploi. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est que le contrôle et la pression émise sur les demandeurs d'emploi peut avoir de véritables effets, non pas sur les difficultés de recrutement, mais plutôt sur les difficultés des personnes qui sont occupées dans ces métiers-là. Alors, c'est quoi ces métiers ? C'est le BTP, la restauration, le soin, la logistique. Dans ces métiers-là, il est beaucoup plus difficile de faire valoir ses droits. Il est beaucoup plus difficile de négocier sur ses conditions de travail, ses conditions d'emploi, ses conditions salariales, parce que, la pression est mise sur les chômeurs, donne un levier pour les employeurs pour finalement avancer le fait que si une personne s'en va, elle ne sera pas, ce ne sera pas un problème pour la remplacer puisque il y a d'autres chômeurs qui sont en difficulté et qui seront prêts à la remplacer. Donc ça contribue à modifier le rapport de force dans ces emplois qui sont les plus difficiles à tenir.
Ilib, et j'aurais aimé te demander, parmi les différentes mesures de contrôle et de sanction des chômeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste le décret sanction RSA pour lesquels des syndicats et des associations ont déposé un recours en annulation au Conseil d'État ? Et que penses-tu de devenir possible de ce recours ?
Si on l'a déposé, c'est qu'on espère gagner. Mais alors, pour exposer, qu'est-ce que c'est que ce décret ? Alors, l'application de la loi Plein Emploi de 2023. C'est un décret qui est directement lié à cette loi. Il en est même consubstantiel. Donc de fait, tout est lié. Il a été publié le 30 mai de cette année. Alors, il y a une imprécision dans la question. C'est en disant que ce serait un décret sanction RSA. Ce n'est pas que RSA. Ça concerne toutes les allocations chômage, c'est-à-dire que ça concerne toute la population de chômeurs, de chômeuses, d'allocataires RSA. C'est quelque chose sur lequel c'est important de d'appuyer. Alors, en gros, ça a été dit, je crois, assez largement jusqu'à présent, c'est obliger les travailleurs et les travailleuses en situation de chômage ou très éloignés de l'emploi, donc, comme peuvent l'être les allocataires du RSA, accepter n'importe quoi sous peine de perdre leurs maigres allocations. Nous, au niveau de l'Union syndicale solidaire, on parle véritablement de tenter de domestiquer, on va dire, toute cette population. Donc ça consiste en une obligation de signer un contrat d'engagement avec le conseiller de Pôle emploi de France Travail maintenant, à effectuer 15 heures d'activité minimale par semaine. Et ces activités sont de nombreux ordres, elles sont de tous ordres, elles sont de formation, mais on parle aussi d'immersion dans le milieu professionnel. Alors ça, c'est quelque chose quand même, il y a eu une bataille vraiment de mots sur ce sujet-là, mais nous, on a parfaitement décodé cela comme une possibilité de travail gratuit, apportée d'un certain nombre d'employeurs peu scrupuleux, ou ne disposant pas de ressources comme par exemple les collectivités publiques territoriales. Et donc, de fait, c'est pour nous un véritable... Alors, étant donné qu'ils n'ont pas d'obligation de rémunération, donc c'est une manœuvre gratuite, puisque le RSA est réglé par des subventions publiques. Le but est de sanctionner, pour forcer vraiment à accepter n'importe quel emploi, ce que France Travail appelle la redynamisation. Ce décret permet ainsi de réduire d'un tiers, voire la moitié, voire la totalité du montant de l'allocation sans que les motifs de sanctions soient très clairs, soient assez obscurs, voire et tournent autour de la notion de manquement ou de notion justement de suspension, redynamisation. France Travail, quand on parle de contrôle, avec succès, cela induit des erreurs de déclaration, des trop-perçus, des oublis. On a même eu le cas, devant l'absence de directive donnée aux agents de France Travail, d'un chef d'agence, justement, qui a fait voter ses agents pour savoir quelles sanctions ils devaient infliger et pour quel manquant commis, qui peut prendre, par exemple, la forme d'un problème de rendez-vous. Eh bien, il y a eu un vote organisé, entre les salariés. Malheureusement, les salariés s'y sont conformés. En outre, on a vu que ces mesures sont appliquées de manière très différente selon les territoires. Certains départements résistent, c'est notamment le cas dans le 44, l'Ille-et-Vilaine également. D'autres appliquent avec un zèle tout aussi important. Alors tout ça, c'est vraiment de l'intrusivité dans la vie privée. D'ailleurs, aujourd'hui, je signale un papier dans Mediapart, avec force témoignage justement qui illustre cette intrusivité, les injonctions à faire. ce sont globalement des pertes vraiment individuelles, de liberté individuelle qui sont à la clé. Alors les voies de recours, il existe quand même des voies de recours, hein, donc pour des personnes qui se font supprimer leurs allocations, mais elles ne sont pas adaptées aux situations, elles ne sont surtout pas suspensives de la question, de la sanction, excusez-moi. C'est un décret vraiment totalement politique, hein, pour complaire pour nous un électorat de droite, hein, convaincu de la nocivité sociale du chômeur. Donc le recours n'aura de chance d'aboutir que s'il est porté par un rapport de force vraiment populaire. Élément à noter, le nombre de syndicats et d'associations qui sont partis au recours. Hein, nous avons la CGT, la FSU, Solidaire, ATD Quart-Monde, Secours Catholique, Solidarité Paysan, bon, je ne vais pas tous les citer, mais cela n'a jamais eu lieu par le passé et c'est important. Le recours est étoffé d'un nombre très important de cas individuels qui ont vraiment mis les personnes dans une misère noire. Rappelons enfin, pour terminer, que près du tiers donc, des RSA ne sont pas sollicités chaque année. Le but évident derrière ce décret, c'est de dissuader d'y recourir pour économiser vraiment de l'argent public.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Jean-Marie, le durcissement des conditions d'accès et la baisse du niveau et de durée d'indemnisation du chômage, ainsi que les mesures de suspension du RSA, peuvent-ils avoir des retombées positives sur le taux d'emploi, malgré tout ?
Alors, c'est très très difficile de faire de la futurologie sur ces questions-là. Néanmoins, comme vous l'avez compris depuis le début de cette discussion, il y a un quiproquo, il y a un malentendu en ce qui concerne le chômage, dans la mesure où, du point de vue des néolibéraux, les chômeurs seraient responsables du chômage, alors même que les statistiques prouvent le contraire. Un exemple tout bête, le chômage a augmenté de 30% en 2009. À cause de la crise économique de cette époque-là, ce ne sont pas les chômeurs qui ont arrêté subitement d'avoir envie de travailler. Et depuis 2016, le chômage baisse. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que il y a une dynamique économique qui, partout en Europe et en France également, fait baisser le chômage parce que il y a plus d'emplois. Ce n'est pas avec ses blancs chemins le gouvernement qui a remis les gens au travail, ni les chômeurs qui soudainement ont découvert le matin qu'ils avaient envie de travailler. Donc le renforcement des contrôles et puis les durcissements des conditions d'accès à l'assurance chômage, de ce point de vue-là, elle a peu de chances d'avoir d'effet sur les statistiques en termes de taux de chômage, en termes de taux d'emploi, parce que France Travail ne va pas créer davantage d'emplois. Et les offres, les fameuses offres non pourvues, sont en trop petit nombre pour que le fait qu'elles soient occupées dès demain par des chômeurs qui seraient en difficulté pour prouver à leurs contrôleurs qu'ils sont dynamiques ou pour retrouver des droits à l'assurance chômage, ces offres non pourvues sont en trop petit nombre pour avoir un effet significatif sur les statistiques du chômage et sur les statistiques de l'emploi. Donc a priori, cette réforme pourrait avoir des effets relativement faibles sur les statistiques de ce point de vue-là. Pour autant, effectivement, un des effets qui, à mon avis, n'est pas l'effet principal qui est poursuivi, mais qui est un effet important que l'on constate dans les statistiques, mais qui ne sont pas celles que regarde le gouvernement, c'est qu'effectivement, cela pourrait conduire à ce que les chômeurs découragés, c'est-à-dire les personnes qui trouvent porte-close lorsqu'ils candidatent, hein, on pense aux chômeurs les plus âgés, on pense aux chômeurs en situation de handicap, les personnes qui sont mises à l'écart du marché du travail, il y a des chances qu'elles soient amenées, à force de contrôle, à force de sanctions, à force d'embûches, qu'elles soient amenées à se désinscrire. Et cela, de ce point de vue-là, ça pourrait amener à faire baisser, à faire augmenter en quelque sorte le nombre d'inactifs, parce qu'ils seraient découragés. Donc de ce point de vue-là, du point de vue finalement du non-recours à l'assurance chômage, non-recours au RSA, qui est déjà très très élevé, hein. On a tendance dans les milieux patronaux et dans les milieux libéraux à considérer que les personnes au RSA sont des assistées. Il paraît surprenant de ce point de vue-là de voir que près de la moitié des personnes qui pourraient bénéficier du RSA ne le font pas. De la même manière pour les allocations chômage qui sont réputées être des allocations pour se reposer, il paraît difficile de comprendre pourquoi 30% des personnes qui seraient éligibles à l'assurance chômage n'y recourent pas. Eh bien, en fait, c'est cela qu'on peut craindre, c'est le fait que le non-recours, qui est déjà très important sur ces dispositifs-là, augmente encore du fait des difficultés administratives qui ont été créées et qui ont été multipliées sur le chemin de l'accès au droit pour les demandeurs d'emploi. Donc, de ce point de vue-là, les retombées, il y a peu de chances qu'elles soient positives. Pour autant, donc je vous le disais, difficile de faire de la futurologie. On a quand même un précédent qui nous permet de réfléchir. C'est le précédent allemand, puisque dans les années 2000, on en parle souvent entre spécialistes de l'emploi, mais peut-être n'est-ce pas si connu que ça de la part de vos auditeurs. Il y a eu des lois qui ont été passées en Allemagne par le ministre du Travail, qui s'appelait à l'époque Hartz, donc on parle des réformes Hartz, des lois Hartz, qui sont passées dans les années 2000 et qui ressemblaient beaucoup aux lois qui ont été passées en France depuis 2018. C'est des lois qui, pour le dire très rapidement, avaient pour objectif de reverser sur le marché du travail la plupart des personnes qui bénéficiaient de l'assistance. Et qu'est-ce qu'on a pu voir comme conséquence en Allemagne ? Et je ne dis pas que c'est ça qui va se passer en France, mais en tout cas, c'est un précédent qui fait réfléchir. Eh bien, ce qu'on a pu constater en Allemagne, c'est une baisse assez majeure du taux de chômage, parce qu'effectivement, la multiplication des travaux gratuits ou très peu payés ont conduit beaucoup de personnes à ne plus être comptabilisées comme chômeurs, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ça a empêché les négociations dans les entreprises pour permettre la revalorisation des salaires, la revalorisation des conditions de travail. Et donc les deux conséquences qu'on a vues en Allemagne et qui sont constatées statistiquement, hein, c'est deux choses. C'est d'une part, on a vu une augmentation du nombre de travailleurs pauvres. Et on a vu une stagnation des salaires des plus pauvres qui ne touchait pas les plus riches. Ça, c'est très intéressant. Il y a eu une augmentation des salaires des plus riches, mais une stagnation des salaires des plus pauvres. Et puis d'autre part, on a vu une baisse de salaire qui fait de ce fait-là parler de miracle allemand à toutes les personnes qui regardent ces choses de loin, mais en fait qui ont contribué, on le voit peu depuis chez nous, à un appauvrissement de la population allemande la plus précaire.
L'émission d'attaque.
Et donc, on vient d'entendre Criollo, Nassagouas. Vous êtes bien sur Radio Aligre pour l'émission d'attaque du mouvement social. Et on parle aujourd'hui des attaques contre les précaires et les chômeurs avec Élie Lambert, secrétaire nationale de Solidaires, Jean-Marie Pilon, maître de conférence en sociologie, Françoise Clément et Evelyne Dorifère, militante à attaque et particulièrement investie sur les questions de chômage, précarité et retraite.
Oui, Élie. Après toute cette description des attaques contre les chômeurs, est-ce que tu peux nous parler des résistances individuelles ou collectives à la maltraitance qui découle des lois, des directives de France Travail ?
Oui, c'est comme tu l'as précisé, hein, c'est une résistance individuelle et collective. Et le problème, c'est que bien souvent, elles sont conçues comme individuelles. Je veux dire par là que le système a vraiment réussi, le système économique et politique, hein, donc libéral, a réussi vraiment à concevoir, on va dire, la figure du chômeur comme un ennemi et il doit avoir honte de sa situation. C'est de sa faute, on l'a dit, hein, donc à partir de là, ça renvoie complètement à une responsabilité individuelle. Et donc le premier réflexe, c'est justement d'aller sur le registre, entre guillemets, de la bataille individuelle, sachant que tout a déjà été, je l'ai dit, hein, donc tout a déjà été un peu prévu, donc dans le décret, avec des recours, mais qui sont évidemment totalement individuels. Donc ces résistances, elles existent à titre individuel, mais on tente, et évidemment, c'est mon discours et c'est mon combat, hein. Il faut absolument qu'il y ait un rapport de force, hein, puisqu'on sent bien que tout cela est politique et qu'il pour en obtenir donc l'abrogation, eh bien, il faut qu'on construise un rapport de force, donc il faut vraiment qu'on ait une démarche totalement collective. Et d'ailleurs, ce qui se passe au niveau individuel, donc ce sont souvent des combats coûteux et longs, et donc comme je l'ai dit, sans compter les délais courts, hein, qui nécessitent une réactivité qui est évidemment peu adaptée à ces publics hein, qui sont dans des situations déjà de détresse et à partir de là qui ne sont pas sereins dans la manière d'organiser leur propre défense. Alors il existe hein, des actions collectives, je l'ai déjà cité évidemment, des juridiques, hein, puisqu'on a nous-mêmes au niveau collectif, donc on lutte contre le décret sanction. On a également en 2021, hein, donc grâce au mouvement des théâtres, hein, rappelons-nous, au sortir donc de la période du Covid où il y a eu donc des mouvements donc par rapport donc aux intermittents, et c'est justement ces publics-là qui sont encore ceux qui arrivent encore à avoir une défense collective, hein, qui résistent et qui d'ailleurs, vous voyez bien, se font attaquer le moins finalement leur statut dans leur dans ces domaines, hein, dans ces combats-là. Et on avait réussi justement à faire patiner le système. Le Conseil d'État avait rejeté, avait accepté en tout cas de suspendre la réforme de 2019, qui malheureusement, une fois que le rapport de force collectif a décru, a été validé. Alors il y a d'autres actions. Hein, il y a notamment ceux par rapport aux caisses nationales d'allocations familiales, hein, qui sont d'ailleurs liées à tout cela, on ne l'a pas évoqué, mais qui est donc des actions notamment qui associent avocats et associations, hein, sont engagées contre les fameux algorithmes qui sont totalement discriminatoires et arbitraires et qui peuvent être parfaitement étendus à France Travail, tant il faudra recourir à l'informatique pour tenir justement les chiffres de contrôle prévus qui sont absolument hallucinants, hein, puisque donc en 2027 normalement il y a 1,5 million de contrôles qui sont prévus au lieu de 600 000 actuels, vous imaginez la cadence. Donc pour nous le but hein, c'est d'arriver à ce qui est un maximum d'action collective et évidemment ça passe pour un syndicaliste par la syndicalisation qui nous paraît absolument indispensable. Alors on arrive à construire, même si ça reste parcellaire, donc des collectifs hein, de chômeurs et de précaires qui justement entendent démontrer que la version de la syndicalisation et donc de la solidarité peut permettre d'améliorer les choses. On a des expériences, notamment sur Marseille, dans le 3e arrondissement, qui est l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe, où on a un collectif qui, depuis 2 ans, est en train justement de mener la bataille. Le but, en gros, c'est « je te défends », mais après, une fois que nous avons réussi à tenter, enfin en tout cas quand nous avons réussi à améliorer ta situation, tu nous aides à défendre les autres et entre guillemets on tente d'avoir une espèce de boule de neige au travers de cela. D'ailleurs c'est encore limité, hein, mais en tout cas répondre aux revendications immédiates de ces personnes précaires nous paraît une solution importante pour redonner l'espoir et donner l'envie de se battre justement pour arriver à reconstruire de véritables collectifs.
Jean-Marie, concernant les médias, on voit que très souvent, ils disent les chômeurs toucheraient plus que les gens qui travaillent. Alors, est-ce que le système français est si généreux et plus généreux que les autres systèmes européens ?
Alors, c'est une question qui est très importante parce que, en fait, c'est une fable. C'est une fable au sens où, en fait, ce n'est pas possible de toucher davantage d'argent quand on est au chômage par rapport à la période où l'on travaillait, pour une raison très simple, c'est que les modalités de calcul des allocations font que c'est toujours une portion, alors qui va de 54 à 75%, mais c'est toujours une portion des salaires précédents. Et c'est une portion qui est inférieure à 1, donc tout simplement, ce n'est pas possible de toucher plus d'argent lorsqu'on est au chômage que lors des périodes précédentes où l'on travaillait, où l'on cotisait. Alors, il peut y avoir des questions qui se posent autour des minima sociaux, parce qu'effectivement, il est possible parfois de se voir proposer des emplois de 20 heures, par exemple, payés au SMIC, qui vont proposer un salaire qui est du niveau d'un RSA ou d'une allocation spécifique de solidarité autour de 600 euros. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est possible parfois que des questions se posent, mais elles se posent surtout parce que les salaires sont très faibles, les contrats sont de mauvaise qualité et que les personnes qui exercent ces métiers-là sont en grande précarité, qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que effectivement, il peut exister des personnes qui bénéficient de pensions, d'allocations importantes. Effectivement, il y a des inégalités importantes parmi les chômeurs, mais ça c'est dû à quelque chose qui est là aussi inscrit dans le système, mais qui peut se discuter. C'est le fait que, avec le temps, le régime est de plus en plus contributif, c'est-à-dire que une personne va d'autant plus toucher qu'elle a contribué. Alors ces dispositions, elles ont été mises en place pour essayer d'inciter, comme on dit, pour faire une carotte. Plus vous avez cotisé, plus vous allez bénéficier d'allocations. Mais d'une certaine manière, ça empêche qu'il y ait une forme de répartition où ceux qui seraient les plus précaires, eh bien, bénéficieraient d'une allocation finalement plus importante au regard de ce qu'elles ont touché par rapport à celles qui ont davantage cotisé. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait des formes de péréquation, des formes de solidarité entre les chômeurs. Ce n'est pas ça qui se passe. En fait, plus vous avez cotisé, plus vous allez toucher d'allocations. C'est ce qu'on appelle la contributivité du régime, et c'est ce qui explique que des personnes qui sont au chômage peuvent parfois toucher des pensions, des allocations importantes, plus importantes que les personnes qui travaillent sur des métiers précaires. Alors ça m'amène à la dernière de votre question, hein. Est-ce que au regard de cela, le système français est plus généreux que celle de nos voisins? On s'était intéressé avec mon collègue Baptiste Françon à comparer justement les systèmes européens pour essayer de répondre à cette question. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'il s'agissait finalement d'une fable, puisque qu'est-ce qu'on en constate, hein, quand on regarde les autres régimes d'allocation chômage, d'assurance chômage qu'on va trouver dans les autres pays européens, parmi nos voisins, que ce soit l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que en Europe, en France comme ailleurs, aucun système n'est généreux. Aucun système n'offre véritablement de sécurité confortable, puisque ce que l'on constate, c'est que ce sont toujours les mêmes types de publics qui sont bien alloués, qui bénéficient d'allocations confortables, hein. Ce sont les personnes les mieux insérées sur le marché du travail, tandis que les personnes les plus précaires, finalement, celles qui connaissent le risque chômage le plus important, finalement, eh bien, ce sont elles qui sont toujours fragilisées par des systèmes qui ont une peur panique du fait que ceux qui ne travaillent pas les choisissent, alors même que tout porte à croire, d'après les statistiques et d'après les études qualitatives, que les personnes qui sont privées d'emploi subissent ces situations et ne l'ont pas choisi. Mais en France comme ailleurs, ce sont ces personnes-là qui ont les allocations les moins généreuses.
Merci beaucoup. On va devoir bientôt s'arrêter et rendre l'antenne. Donc on a évoqué toute une série de phénomènes, hein, qui montrent quand même l'aggravation, hein, de ces attaques-là, et surtout le rythme auquel s'enchaînent ces réformes, hein, qui font effectivement de la mise au travail forcée quasiment et parfois gratuite des chômeurs un objectif pour les néolibéraux. Donc plein de choses à comprendre aussi sur les réformes très 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 récentes. Donc je remercie beaucoup nos invités, hein, donc Élie Lambert et Jean-Marie Pilon, et puis Françoise Clément et Evelyne Dourifer qui ont animé cette discussion. Pour quelques mots pour terminer, pour l'agenda à venir, donc effectivement on arrive à la fin de l'année. Vous savez que le 18 décembre, c'est la Journée internationale des migrants. Donc, il y aura un certain nombre de manifestations en France pour les droits des étrangers et contre les dernières réformes en matière d'immigration. Et puis, comme vous le savez également, c'est une année de dons, une fin d'année, pardon, souvent aussi consacrée aux dons aux associations. Et comme d'autres associations, ATTAC a besoin de vous, a besoin de votre soutien financier, a besoin de vos adhésions. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'ATTAC, à nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis si vous en avez un peu les moyens, à contribuer aussi financièrement à la vie de notre association. On remercie pour terminer Radio Aligre, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Spectre.